Aussi, il existe une tradition solide pour l'étude des sources de guerre et paix liées aux noms Pokrovski, Vinogradov, Zaydenchnour, Rodionov, Gusev, Fortunatov, Krasnov, Viktor, Shklovsky, Lilia, Chernets, Velikanov et d'autres. Nous allons parler dans cette intervention de la langue française de Napoléon dans Guerre et paix et dans les mémoires de ses généraux. L'analyse des propos directs ou des monologues intérieurs des personnages de cette œuvre est basée sur les sources. On pose la question de savoir qui est l'auteur de la traduction des phrases écrites en français dans les références. La même question on pose à propos des citations des œuvres de Thiers, de Rapp et d'autres. Pendant 10 ans, Tolstoï fut concentré sur l'époque des guerres napoléoniennes et, dans les meilleures conditions de sa vie, il créa une image des mœurs basée sur les événements historiques. Tout ce qui concerne Napoléon dans Guerre et paix se réfère à cette image. Le thème de Napoléon intéressait Tolstoï déjà en 1757, à partir de notes écrites dans son journal intime après la visite du tombeau de Napoléon. Je cite, « Je suis allé à l'hôtel des Invalides, la déification du scélérat est insupportable » et de son opinion émise en 1909, après la lecture du livre de l'historien Vaïensky, des actes, documentation et matériaux pour une histoire politique et morale de 1912. Je cite, « Napoléon, quel filou était-il? De petite taille, il n'était pas français, mais corse. C'est la révolution qui l'a propulsé. Et quelle révolution? La nôtre faisait exploser et celle-là faisait exécuter. » À ce propos, il n'est pas sans intérêt de noter que selon les témoins, Napoléon a dit « Que m'importe que mon homme corse, caporal, usurpateur ?» Cette opinion durable se forma chez Tolstoï à l'époque de l'écriture de romans « Guerre et paix ». Alors, il pensait déjà que Napoléon était cet homme sans conviction, sans passé, sans tradition, sans nom, et qui n'était pas même français. Il pensait cela parce qu'il aimait Napoléon. Mais dans son roman, partout où parlent et agissent les personnages historiques, y compris l'empereur français, Tolstoï n'invente rien, mais se sert de préférence des œuvres historiques d'auteurs russes et français, des documents historiques, des archives, etc. Il créa une image littéraire de Napoléon. À ce propos, Kutuzov de Tolstoï est aussi en quelque sorte sa découverte littéraire. Dans Guerre et paix, il se pose. Dans tous les livres historiques russes ou françaises lus par Léon Tolstoï, Napoléon s'opposait à Alexandre Ier. Mais Alexandre Ier n'est perçu dans le roman avec enthousiasme que par le garçon Pétia et par Nikolaï Rostov, gentil mais pas raisonnable et non par Tolstoï. À ce sujet, c'est uniquement Kutuzov qui dit, je cite, « La bataille de Borodino était une victoire, il l'a répété constamment de vive voix jusqu'à l'heure de sa mort. » Cette appréciation rejoint celle de Pouchkine. Je cite, « Ce n'était que Kutuzov qui pouvait proposer la bataille de Borodino. Ce n'était que Kutuzov qui pouvait laisser Moscou à l'ennemi. Ce n'était que Kutuzov qui pouvait rester en cette inaction sans... en cette inaction active, sage, en endormant Napoléon dans l'incendie de Moscou et en attendant une minute fatale. » Tolstoï cita plusieurs fois la phrase de l'allocution de Napoléon aux soldats lors de la campagne d'Égypte. Du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. Dans Guerre et paix, en analysant l'activité de Bonaparte à partir de son entrée à Moscou, Tolstoï écrit suite des doutes sur la véracité de l'exposé de fait par des historiens et des mémorialistes français. Je cite, « Il est tout à fait mensonger de prétendre, comme le font les historiens, que ses forces s'étaient affaiblies à Moscou. À ce moment, comme auparavant, comme par la suite en 1813, il a déployé son intelligence et ses forces pour agir au mieux de ses intérêts et de ceux de son armée. L'activité de Napoléon durant cette période n'est pas moins surprenante qu'en Égypte, en Autriche et en Prusse. Nous ne savons pas exactement à quel point en fut réel le génie de Napoléon en Égypte, où 40 siècles contemplèrent sa grandeur, attendu que ses gigantesques exploits ne nous ont été rapportés que par des Français. Le fragment suivant sur 40 siècles est cité dans la comparaison entre Napoléon et Kutuzov, qui n'a jamais parlé des 40 siècles qu'il nous contemple du haut des pyramides, ni des sacrifices qu'il faisait à sa patrie, ni de ce qu'il avait fait ou avait l'intention de faire. En général, il ne parlait jamais de lui-même, ne cherchait à jouer aucun rôle, se montrait toujours le plus simple et le plus ordinaire des hommes, ne disait que des choses les plus simples et les plus ordinaire. Il écrivait à ses filles et à Madame de Staël, lisait des romans, aimait la société de jolies femmes, plaisantait avec les officiers et soldats. Les deux campagnes de guerre, Austerlitz et la Russie, étaient la base factuelle des œuvres françaises de l'historien Adolphe Thiers, Histoire de l'Empire, Mémoire de Général Rapp, l'histoire de Napoléon et de la Grande Armée du comte Louis-Philippe, comte de Ségur, etc. Dans la bibliothèque personnelle de Tolstoï, on trouve le livre de Thiers, Histoire de l'Empire, une des sources les plus importantes de Guerre et Paix. La lettre, par exemple, la lettre de Napoléon à Murat, les conversations de Napoléon avec ses généraux, le conseil de Mouton sur la retraite par la route Majeska et d'autres parties lui sont empruntées. Ce sujet n'était pas encore traité. Tolstoï lut attentivement le troisième volume de l'histoire de l'Empire et laissa des notes dans le chapitre qui s'appelle Septembre 1812. Dans les pages 163-168, le fragment suivant est souligné d'entrée dans la marge à l'encre noire. Je cite, « Ces détails transmis à Napoléon la fligère, il n'avait attendu toute l'après-midi les clés de la ville qu'avait dû lui apporter une population soumise venant implorer sa clémence toujours prompte à descendre sur la vaincue. Le groupe de mots à descendre sur les vaincus, «снизошло на побежденных», y est souligné. Un petit fragment de cette note, «sa clémence toujours prompte à descendre sur les vaincus», est cité dans Guerre et Paix, dans le suivant fragment. Il est trop grand, je ne le citerai pas pour ne pas perdre le temps. Sur l'opinion de l'opinion sur le jugement de Thiers est répétée de Thiers plutôt je cite ça. Le fragment indiqué ci-dessous, avec les notes faites par Tolstoï dans l'original, est cité en français dans les coupures. Avec les coupures dans Guerre et Paix, je cite, Napoléon faisait aussi tout ce qui dépendait de lui pour la bienfaisance qui est le plus beau fleuron des princes. Enfin, selon l'éloquent rapport de Thiers, il fit aussi payer la solde de son armée avec les faux assignats russes fabriqués par les ordres. Ensuite, l'argumentation de c'est Tolstoï qui écrit. L'argumentation de Thiers du livre nommé ci-dessous est exposée, je cite, « Relevant l'emploi de ses moyens par un acte digne de lui et de l'armée française, il fit distribuer les secours aux incendiés. Mais les vivres étant trop précieuses pour être données à des étrangers, la plupart la plupart ennemis, Napoléon aima mieux leur fournir de l'argent afin qu'ils se fournissent au dehors et de leur fit distribuer des roubles papier. Ici, le russe alterne avec le français suite à la citation de la source. L'opinion sur ce jugement de Thiers est répétée avec de petites variations dans l'article « Quelques mots à propos du livre Guérépé ». Notons entre parenthèses que le fragment cité deux fois frappa Tolstoï qui cherchait dans les sources de l'objectivité par des absurdités absourdissantes qui, à son avis, correspond au ton général de la langue, emphatique, solennel, n'ayant aucun sens direct. Dans ce cas, Tolstoï n'est pas d'accord avec Bonapartiste Thiers à cause d'un style élevé dans son récit sur la distribution des papiers monnaie par Napoléon. D'après Victor Shklovsky, cette interprétation fut lue par Tolstoï chez Mikhalovski Danilevski, parce que l'affirmation positive de la distribution de faux papiers monnaie ne provient pas du sens direct des lignes de Thiers. Ce fait est catégoriquement nié par l'historien Bogdanovich. L'opinion sur l'inexactitude du texte de Mikhalovski Danilevski est commune. Wittmer, historien militaire, en écrit ceci, je cite, « D'après nous, les œuvres de Thiers et de Mikhalovski Danilevski ne sont pas les seules et même pas les œuvres principales de cette époque-là, d'autant plus que ces deux écrivains, y compris le comte Ségur, sont des écrivains les plus éloquents. Par contre, il est douteux qu'ils soient les plus fiables parmi tous ceux qui ont décrit la guerre de 1812. » La lettre de Napoléon à Murat, écrite suite à l'armistice de 3 jours, vu, je cite, l'effusion inutile de sang, est empruntée du livre Histoire de l'Empire de Thiers. Pour Kutuzov, cet armistice a été le seul moyen de gagner le temps. Dans ce cas, je ne vais pas citer cette lettre. Donc, mais on peut dire que la traduction tout à fait littérale, à l'exception de l'introduction du mot par Tolstoï, du mot « empereur » au lieu de 3 points dans le texte français. Tolstoï utilisait largement les ressources stylistiques de l'alternance du russe avec le français et du français avec le russe déjà dans le roman dans ses œuvres « Enfance, adolescence, jeunesse »,« Les récits de Sébastopol » et « Dans les Cosaques ». Le roman « Guérépé » est bilingue. Le russe s'y alterne avec le français et cette alternance est très variée. Le bilinguisme est proche du style des documents de cette période et de cette époque. Et le français de Napoléon et le français parlé, l'écrivain y voyait un précédé stylistique pour montrer la vraie histoire des guerres napoléoniennes telle que l'a vécue la génération de ses parents et des généraux de Napoléon. Cette approche correspond au style d'un roman historique et s'explique par l'intention de l'auteur de transmettre, je cite, le caractère de cette époque-là et une manière française de penser des personnages. Tolstoï explique ce phénomène lui-même, je cite, « En m'occupant de l'époque du début du siècle présent, en dépeignant des personnages russes d'une certaine société, Napoléon et les Français qui ont pris une part si directe à la vie du temps, j'ai été involontairement entraîné à donner une tournure française à mon langage et à ma pensée. Je voudrais que ceux qui trouvaient tout à fait ridicule de faire parler Napoléon tantôt russe, tantôt français, reconnaissent que si cela leur semble ainsi, c'est que tout comme l'homme qui regarde un portrait, il voit non pas l'ensemble du visage avec son jeu de lumière et de l'ombre, mais la seule tache noire qui se trouve au-dessous du nez. De nombreuses critiques exprimaient de doutes à propos de la rationalité de l'emploi de la langue française par Tolstoï dans Guérépé, déjà de son vivant. Ainsi, dans la lettre au poète Fête, Botkin écrivait « Pourquoi cette abondance de conversation française ? Il suffit de dire que la conversation se passait en français. C'est absolument superflu de produire une impression désagréable. » À Constantin Leontief, le roman semblait la cacophonie et cacapsychia. Je ne sais pas comment c'est en français. La tubérosité, les épines et les fosses du naturalisme. Dans la publication de la première rédaction achevée du roman Guerre et Paix, qui s'appelle Année 1805, le chapitre premier, qui s'appelle À Pétersbourg, commence par le texte en français. Au bas de la page, le rédacteur fit une note intrapaginale. Je cite, « Pour garder la couleur du temps, l'auteur emploie assez souvent les phrases françaises. Pour cela, qui ne parle pas français, la traduction des expressions françaises est jointe dans les mots au bas de la page. » Et dans la deuxième référence, en bas, on donne la traduction d'une phrase française en russe. Cela confirme que les autres traductions juxtalinéaires du français pourraient appartenir à Tolstoï. Au moins, on sait de la lettre de Tolstoï à Katkov que la traduction des lettres françaises de Julie Karagina et Marie Balkowska est faite par l'auteur. Je cite, « J'ai traduit des lettres françaises et, à mon avis, on peut ne pas imprimer la traduction, mais on ne peut pas ne pas imprimer le texte français. » Il s'agit de la correspondance de Julie Karagina avec Marie Balkonska. Dans la revue Ruski Vestnik, on a publié le texte français en version originale. Dans les autres éditions, il y avait une traduction en référence. On sait que la lettre de Tolstoï, on sait de la lettre de Tolstoï à Bartenev qu'il lui demanda de traduire la lettre de l'empereur premier à de l'empereur Alexandre Ier à Napoléon. Plus tard, il lui demanda de traduire des extraits de Thiers. Mais c'est un grain de sable dans la mer en comparaison avec le corps de phrases en langue française dans Guerre et Paix. D'après Tchitcherin, le texte français à peine compte-t-il 2/100 de tout le roman. Pour conclure, disons que le français de Napoléon est donc reproduit fidèlement d'après les sources historiques avec des petites variations du texte. Léon Tolstoï traduit les phrases de Napoléon d'une façon la plus fidèle et il créa une image de l'empereur français, une image géniale de Napoléon telle qu'il n'a jamais été et à la fois réelle. Merci.